Simon, on perdra pas de temps avec les présentations parce que moi, l'essentiel de ce que je veux entendre, ça va venir de lui.
Oui.
Fait que moi, c'est pas important pendant cette entrevue-là. On va rejoindre en Ukraine Jackie Lebas, qui est journaliste, documentariste. Bonjour, Jackie.
Bonjour, Sébastien. Bonjour à tous les Québécois. Très heureux de vous retrouver.
Jackie, rappelez aux gens, parce que vous êtes déjà venu ici en studio, on avait fait une entrevue, vous avez été à la bibliothèque à Alice Lane. Rappelez-nous dans quelle région de l'Ukraine vous habitez, puis est-ce que vous pouvez nous décrire la situation actuellement?
Alors, je suis à Jytomyr, c'est à 100 km à l'ouest de Kiev.
Okay.
Mais c'est une région qui pourrait paraître calme et isolée, à part que... je peux le dire chez vous, à l'antenne, c'est une région stratégique, un casernement pour 7000 hommes, l'aéroport militaire où sont actuellement les F-16 qui arrivent un petit peu partout d'Europe, et un atelier de réparation de chars d'assaut. Donc, voyez-vous, il y a de quoi occuper nos nuits.
Ah, écoute, je comprends.
Et oui, alors, la situation, c'est que les habitants de ma ville, qui s'appelle Jytomyr, malheureusement, je trouve, je le déplore quand je me balade dans les rues, ont fait de la guerre leur quotidien. Ça veut dire que on a les sirènes tous les jours, plusieurs fois par jour. On ne descend plus aux abris, les abris sont complètement vides. Et on s'habitue. La guerre fait partie de la vie de tous les jours. Mm. Mais aussi, ce qui paraissait exceptionnel avant, quand je rentre dans mon village et que la rue est occupée par un convoi qui finalement est rien d'autre qu'un convoi funéraire, eh bien, c'est complètement banalisé. La forêt de ma ville a complètement disparu, complètement.
Ah, oui.
Elle a reculé de 700 mètres et elle laisse place à un immense cimetière où les tombes maintenant arrivent jusqu'au bord de la route.
Mmh.
Alors, la guerre a changé le paysage, la vie. Moi, je croise des enfants dans la rue, des enfants à qui je disais bonjour. Parfois, je donnais des bonbons, des enfants qui ne savent plus sourire, des gens qui marchent la tête basse en portant leur peine, parce que les Ukrainiens, ces Slaves, ne se plaignent de rien. On a l'habitude de dire chez nous, dans nos pays, « Bonjour, comment ça va ?» Eh bien, en Ukraine, on ne le dit pas, parce que rien ne va. Mais on ne se plaindra à personne.
Ouais.
On ne se plaint à personne quand l'électricité coupe pour une heure, pour deux, puis finalement ça dure 8 heures, 10 heures. On ne se plaint de rien. Cette guerre a envahi l'emploi du temps, elle a changé les vies, elle a changé toutes les habitudes et elle fait partie maintenant, depuis le réveil jusqu'au soir, de leur vie, et on espère simplement que la journée va pas être pire que la veille.
Ah, c'est très difficile d'entendre ça. Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de l'apprivoisonnement, c'est-à-dire au niveau de la nourriture, ou etc.? Est-ce qu'il y a des défis à ce niveau-là?
Eh bien non, justement. Okay. Je pourrais raconter plein de choses tristes sur autre chose, mais ne l'oublions pas, par exemple, au début du conflit, l'Ukraine... la France manquait de moutarde parce que la moutarde est fabriquée en Ukraine. La France manquait de papier parce que le papier est fabriqué en Ukraine.
Ouais.
Donc, finalement, les magasins mais sont pleins. Et ça, c'est quelque chose aussi que le président met en évidence parce qu'il ne veut pas que les civils aient une double peine. Donc, on va tout mettre en œuvre. On a bloqué les prix. Il ne faut pas que les prix augmentent ou très raisonnablement.
Okay.
Le carburant, tout cela, sont à des tarifs tout à fait normaux. On subit moins le coût des prix que les pays, finalement, européens et voisins.
OK. Là, il y a quelqu'un qui est arrivé le 20 janvier à la Maison-Blanche qui s'appelle Donald Trump, qui a reçu de façon très cavalière le président dont vous parliez, M. Zelensky. Et
oui,
on sait maintenant la proximité entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Comment c'est perçu par les Ukrainiens là-bas?
Oh, c'était un livre grand ouvert. Bon, d'abord, le commentaire des Ukrainiens, c'est que, mais comme chez vous, au Québec, je le suppose, on se demande quand même jusqu'où va la bêtise américaine d'élire un individu comme cela, que je n'appellerai pas un homme, parce que on se demande quand même comment on peut confier une pareille nation, et on s'en rend compte maintenant, nation, ça veut dire aussi... en déduction, toutes les retombées partout dans le monde. Moi, j'étais catastrophé hier matin d'allumer ma télévision et de voir qu'une frappe américaine avait fait, dans le conflit d'Israël et de Palestine, 200 morts dans la nuit. La présence de cet individu va complètement... bouleverser mais le monde entier. Vous le savez, avec les menaces qu'il peut y avoir un peu partout, Groenland, Panama, Canada, mais ainsi de suite. Alors, la façon dont il a reçu notre président, c'était une espèce de grande farce. On se serait cru dans du Molière. Il savait qu'il était filmé. Il a été odieux. Ça va être dans l'histoire un épisode... qu'on ne peut pas oublier. Comment est-ce que l'on peut, quand on est un chef d'État, oublier les bases de la diplomatie, de la politesse, de la correction? Il a été en dessous de tout. Je suis toujours à me demander quelle est sa place, alors que là, il joue les représentants de la marque Tesla. Je me demande un petit peu où est sa place. Et encore, à part cette conversation téléphonique avec Poutine, on recommence le rendez-vous. On recommence ces rendez-vous sans l'Ukraine, à discuter comme cela de l'avenir d'un pays et avec un Poutine qui est complètement étonné, alors que c'est lui qui a déclenché la guerre et qui finalement va nous faire une immense farce, arrivant en retard au rendez-vous téléphonique, les caméras... qui le filme en attendant le rendez-vous, on le voit souriant en se moquant du fait que volontairement il va être en retard à ce rendez-vous téléphonique. Poutine, qui n'a Trump, qui n'a rien compris, eh bien voilà, devient finalement le grand clown de Washington, c'est-à-dire que il va afficher tantôt sa supériorité, sa puissance, et en même temps se prêter à ce jeu. Alors c'est une grande farce, hein, parce que on devine tous qu'il doit être bien tenu quelque part par des choses inavouables, et tout se sait. Malheureusement, parfois c'est très tard, mais le passé de Trump à Moscou a dû laisser des traces qui font que nous ne sommes pas dans le secret, dans tous les secrets, mais qu'aujourd'hui, il y a certainement des choses qu'on ne doit pas savoir et qui font qu'il est bel et bien tenu par le président russe.
Oui, ben on sent la mainmise, puis déjà, lui, il est prêt à faire des concessions que demande Vladimir Poutine. Donald Trump est prêt, lui, à céder des parties du territoire ukrainien. On l'a entendu. C'est comme vous dites...
Oui, c'est formidable, quand même. Avouez-le, Sébastien. Oui. C'est quand même formidable de faire des cadeaux avec les choses qui ne vous appartiennent pas.
Ouais,
exactement. Hein, voilà, on peut distribuer des terres qui n'appartiennent en rien aux États-Unis. Ouais. Il est tellement peu au courant des chiffres que... Il réclame tantôt 500 milliards alors que les États-Unis en ont investi 140. Moi, j'ai une réflexion. Comme je garde toutes mes images, au 20e jour de guerre en 2022, dans une interview que je faisais à LCN, je disais, mesdames et messieurs, je ne suis pas très heureux de dire cela. Mais apprenez quand même, en tant qu'Européen, peut-être qu'il est conseillé d'apprendre le russe. Eh bien, on voit 3 ans après qu'on ne peut plus écouter ça en considérant que c'est une blague.
Ouais.
On a tous les jours la preuve que Poutine n'est pas avancé en Ukraine pour enlever les nazis du gouvernement. Il n'est pas arrivé en Ukraine pour empêcher l'Ukraine, à son tour, d'envahir la Russie, comme il l'a dit à un moment. C'est évidemment comique quand on voit la taille de l'Ukraine et la taille de la Russie. Mais on voit bien se dessiner. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre qu'autour, il y a une grande fragilisation de l'Estonie, de la Lettonie, de la Moldavie, de la Pologne, de la Roumanie, où ils voudraient bien voir les forces de l'OTAN reculer. On est évidemment qu'au début de cet immense scénario. Alors aujourd'hui, eh bien sûr, ils souhaiteraient quand même dans les coulisses arriver à un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu n'aurait rien d'autre que de lui permettre de regarnir un petit peu ses réserves de munitions. Parce que ce qu'on n'annonce pas à la télévision russe et que j'entends moi aux télévisions de l'Est ici, c'est cette grande misère qui s'amorce un peu partout en Russie. Ce sont les taux de crédit passés de 2% à 24%. C'est une crise financière complètement énorme qu'on essaye de cacher avec des magouilles bancaires pour que la population le ressente le moins possible. Mais ça ne pourra pas se cacher longtemps. Il ne faut pas céder, il ne faut pas de cessez-le-feu. Zelensky va le refuser si c'est à n'importe quel prix, parce qu'il est bien conscient, et il faut en être conscient, qu'actuellement l'Ukraine, dont on pouvait se moquer il y a 3 ans, est actuellement la seconde ou la troisième armée du monde, parce que tout ce matériel est arrivé, parce que par ma fenêtre de mon balcon, où je suis actuellement, à 800 mètres, il y a l'aéroport militaire avec les F-16. Il y a tout ce matériel qui est là, que l'on a promis, qui est arrivé en retard, mais qui est là et dont on se sert. Il y a cette avancée qui s'est faite en Russie. On pouvait se demander pourquoi Zelensky faisait ça. Zelensky l'a fait uniquement pour une chose, c'est pour que on s'émeuve un peu en Russie de cette guerre et que l'on fasse comprendre à la population que la guerre est arrivée. C'est la première fois de l'histoire que la guerre rentre sur le territoire russe. Mmh. Et ça, Zelensky a fait un coup absolument incroyable parce que il a montré, on ne peut pas le cacher.